Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Retour donc pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui à la case rentrée. Et qui dit rentrée dit horaire, transport, cadence, obéissant à un emploi du temps précis. Un rythme ponctué, bien calé, hein, loin des rythmes relâchés des vacances, décidé le plus souvent au gré des rayons du soleil, du niveau des marées ou même de l'intensité des braises. Alors on pourrait bien se dire à la rentrée, pas de quoi en faire une maladie. Eh bien pour certains, ces premiers jours de septembre ne fleurent pas uniquement le parfum très particulier des fournitures scolaires toutes neuves. Non, ils traduisent aussi, sur le plan physique, ils se traduisent par une certaine tension nerveuse, parfois même des bouffées d'angoisse, des symptômes qui empêche précisément de traverser cette période avec sérénité. Alors comment repérer ces manifestations? Comment distinguer ce qui relève d'une adaptation ordinaire, d'un déséquilibre toxique à l'inverse? Et puis comment l'expliquer? Bien sûr, comment essayer de s'en débarrasser au plus vite? Toutes ces questions, on les aborde aujourd'hui dans Priorité sans stress, car nous sommes ravis de vous retrouver en direct, vous qui nous écoutez, de Bamako à Port-au-Prince, à Kinshasa, à Saint-Louis ou encore à Bucarest ou à Québec. Rentrée sans stress en votre compagnie, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris, auteur de « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» paru aux éditions Marabout. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Cameroun, avec le docteur Félicien Tonnet, psychiatre, pédopsychiatre, également directeur général adjoint du CHU de Yaoundé. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et puis bien sûr, cette émission, c'est vous qui la faites. On attend vos questions, vos témoignages. Est-ce que personnellement, vous êtes confronté à ce stress de la rentrée? Notre numéro, le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Cette expression du stress de la rentrée, certains vont même plus loin, docteur Marie-Claude Gavard, on entend parler d'un syndrome de la rentrée. Est-ce que ça existe vraiment, ça?
Ah oui, ça existe. Il y a un conditionnement depuis l'enfance. Les parents très anxieux qui disent aux enfants en répétant, attention, il faut que tu travailles bien en classe, demain c'est la rentrée ou demain c'est lundi. Hein, beaucoup de personnes disent, ça va comme un lundi, ce qui veut dire ça ne va pas bien, et vivent essentiellement pour les week-ends et les vacances. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement culturel aussi très important.
Qui se relaie de génération en génération.
Oui, absolument.
Alors, justement, quand est-ce que cette anxiété, finalement, qu'on retrouve tous les 1er septembre, 3 septembre, selon le jour, en fonction des pays, bien sûr, comment est-ce que cette anxiété ordinaire devient alarmante? Qu'est-ce qui se passe, justement, pour que d'un simple petit stress, on va dire anodin, on passe à quelque chose de plus inquiétant?
C'est-à-dire, en général, le stress ne commence pas le jour de la rentrée. Il y a une anticipation anxieuse, une situation qui va se passer, ou pas d'ailleurs. Et c'est un point de vue négatif sur les choses. Alors, suivant, si la personne, à la rentrée, par exemple, change de travail, il peut y avoir la peur de ne pas être au niveau. En général, c'est ça. C'est, est-ce que je vais être capable d'assumer mes responsabilités ou non? Et donc, c'est ce stress qui peut être plus ou moins anxiogène, suivant la situation de la personne. Et pour les enfants, c'est la même chose. Et il y a le stress des parents qui est répercuté, comme ça, au niveau de, est-ce que ça va être une bonne année? Est-ce que je vais être capable? C'est essentiellement au niveau d'une dévalorisation, qu'il y a le stress qui augmente.
Alors, quand on est justement en situation de souffrance, docteur Marie-Claude Gavard, face à ce stress de la rentrée, est-ce qu'il y a des signes particuliers? On peut même parler de symptômes.
Ah oui, bien sûr, il y a des symptômes physiques qui peuvent être des troubles du sommeil, de l'appétit, une sudation, boule dans la gorge, une boule dans l'estomac. Oui, bien sûr. Et psychologiquement, il y a des signes comme l'irritabilité, l'angoisse qui se manifeste, qui est dite. Il peut y avoir des troubles du sommeil, des cauchemars et une anticipation anxieuse avec des répétitions. Est-ce que je vais y arriver? Je sais que ça va mal se passer. Tous les ans, c'est la même chose, avec une dramatisation de la situation.
Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez, vous, en consultation, par exemple, pour cette période de septembre jusqu'à octobre, des personnes qui viennent vous voir en disant « j'arrive pas, je n'arrive pas à passer ce cap de la rentrée, docteur Gavard ?»
Alors, pas vraiment, parce que à la rentrée, il y a tellement de choses à faire que aller voir un psy n'est pas une priorité.
On s'en rend compte plus tard.
Voilà, absolument. Et à ce moment-là, on analyse le stress en général.
Est-ce que justement ce stress, on peut dire saisonnier, c'est quelque chose que vous rencontrez pour d'autres périodes de l'année où les personnes sont soumises à une espèce d'intensité comme ça, tout arrive d'un coup, tout arrive d'un bloc?
Oui, souvent au niveau des fêtes, les fêtes de fin d'année sont des grands facteurs de stress parce qu'il y a les réunions familiales, il y a la fatigue des fêtes, donc la reprise peut être difficile. La période des vacances aussi, il y a une rupture de rythme et même avant les vacances, il peut y avoir du stress. Est-ce que je vais réussir mes vacances? Est-ce que me retrouver en famille va se passer correctement? Donc, il y a des périodes comme ça et au niveau de certaines professions, lorsqu'il y a un bilan, par exemple les comptables de fin d'année, enfin, lorsqu'il y a une surpression du travail, oui, bien sûr, le stress augmente.
Tout à l'heure, vous parliez de cette, en fait, transmission du stress d'une génération à l'autre, docteur Marie-Claude Gavard, mais du côté des manifestations, est-ce que justement les signes sont très différents quand on est un enfant ou quand on est un adulte, hein, où ça se retrouve?
Ça peut se retrouver, mais un enfant peut aussi se taire. Un enfant, souvent, a des manifestations physiques. Il peut avoir des maux de ventre, il peut avoir des vomissements juste avant de rentrer en classe. Donc, les parents doivent faire attention de ne pas tout mettre sur le physique en pensant qu'il y a, par exemple, une douleur,
une petite gastro,
des choses comme ça. Il faut vraiment voir psychologiquement qu'est-ce qui peut inquiéter l'enfant, l'effrayer.
Alors, illustration, justement, tout de suite, pour ces différentes générations, rentrée qui s'annonce mouvementée dans cette famille nombreuse.
Les bouquets, par contre, vous les mettez dans la côté, s'il vous plaît.
Bah, j'ai mis dans le placard, bonjour,
s'il n'y a pas de bouquet avec vous.
Comment ça s'annonce, la rentrée, pour vous? Comment vous allez vous organiser?
C'est une préparation carrément, c'est de toute une année. Ce qui fait que j'ai dû anticiper à faire tout, à tout préparer. Comme je suis seule avec mes enfants, j'élève seule mes enfants. Alors, par exemple, les fournitures scolaires, je les ai achetées au mois de juillet. J'ai tout acheté. J'ai eu la chance d'avoir la liste de mon fils qui est au collège. La mairie de Paris, heureusement qu'elle donne les cahiers. Du coup, je sais que je n'ai pas à me soucier de ça. Et j'ai complété le reste. Les deux grandes... Il n'y a pas quelque chose de particulier. Les habits sont achetés, les chaussures de sport sont achetées. On a fait tout le shopping pour la rentrée.
Même les goûters?
Même les goûters que je viens d'acheter aujourd'hui, vous les avez vus. Oui, j'ai fait carrément les courses de la semaine, même les goûters des petits.
Alors, je m'appelle Thierry et j'ai 22 ans. Je suis étudiante en commerce international. Je passe en troisième année et l'année prochaine, je vais à Manchester. Enfin, dimanche prochain. C'est un échange universitaire, mais je vais étudier en fait toute mon année là-bas à Manchester, enfin l'université de Manchester. Ça me stresse pas du tout parce que j'ai déjà vécu un peu toute seule auparavant, donc ça me stresse pas. Je sais déjà me gérer, mais c'est assez excitant en fait. J'ai plus hâte que de stress. J'ai hâte de reprendre les cours.
Bah, honnêtement, je vous cache pas, pendant toute l'année, mon seul stress par rapport à son départ, c'était l'aspect financier. Parce que cette année à l'étranger me coûte très très cher et il fallait travailler beaucoup. J'ai pas eu de repos, j'ai pas eu de vacances pour pouvoir économiser de l'argent pour lui payer son année scolaire. Voilà, c'était ça mon côté stressant, que je puisse assurer les frais de son année scolaire.
Et pour vous, ça signifie quoi la rentrée scolaire? Comment ça va se passer pour vous?
Ça va bien se passer. Je stresse pas, mais j'essaie de visualiser un petit peu comme ça. Je me pose des bases et je stresserai moins. Mais je suis un peu détendue, mais pas trop non plus.
Et cette année, tu rentres en troisième et à la fin de l'année, tu as ce qu'on appelle le brevet des collèges. Est-ce que ça te stresse déjà dès la rentrée, là, lundi, d'y penser?
Un petit peu, ouais. Bah, c'est un examen plutôt important. Donc... il faut pas le rater.
Je m'appelle Nélia et j'ai 7 ans et demi. Pour moi, la rentrée, c'est comme d'habitude, on va retrouver nos copains et tout. Ça a l'air super bien, ça me stresse un peu quand même. Parce que c'est lundi et j'ai un peu peur pour la préparation et tout, les sacs, les affaires scolaires et tout.
Tu vas mettre quoi dans ton sac ?
J'ai mon cahier de texte, mon cahier de maths, mon cahier de français.
Alors moi je m'appelle Anaïs, j'ai 19 ans, je suis à Sciences Po. À vrai dire, ça fait une semaine que j'ai repris les cours. On a fait une sorte de pré-rentrée d'intégration, ainsi de suite. J'ai peur de ne pas tenir le rythme, sachant qu'il est très soutenu. Le plus dur, en fait, c'est le fait de s'adapter au rythme, de prendre l'habitude de travailler régulièrement, ainsi de suite. Sinon, je peux très bien caler ma passion, qui est la danse, avec mes études. Ça, je le sais, parce qu'en soi, Sciences Po, en fait, met beaucoup en avant les activités artistiques. Du coup, je sais que je pourrais en même temps danser et étudier. Mais voilà, j'ai peur que le premier semestre est connu pour être le plus dur.
Et vous, en tant que maman, comment vous vous organisez pour gérer et la vie de famille, et votre vie personnelle et votre vie professionnelle ?
Dans ma vie professionnelle, j'ai la chance de travailler en 2 heures. Du coup, j'ai des journées disponibles dans la semaine. Ça me permet d'organiser les activités, par exemple, de Nelia, à savoir le conservatoire. Elle fait de la musique, la danse classique. Et il faut que je me libère pour l'accompagner parce que j'ai personne d'autre pour le faire. Mes filles, une, elle part et l'autre, elle va avoir un emploi du temps très, très chargé. Et d'une, et puis de deux, je sais que mes jours de repos, c'est pas des jours de repos, c'est des jours où je dois faire des courses, faire le ménage, le repassage. Hélas, voilà, ça va être ça, mon organisation, en plus de mon travail. Et j'espère que l'année prochaine, ça va être plus cool pour moi. Que je puisse de temps en temps m'évader, mais malheureusement, maintenant, c'est impossible.
Je souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui écoutent. Et ne stressez pas trop.
Courage à toutes les mamans.
Cette maman, hein, Siam Thiaby, infirmière, mère de 4 enfants qu'on a pu entendre. Ils ont entre 7 et 22 ans. Une famille qui vit dans le 10e arrondissement de Paris, qui a rencontré il y a quelques jours Raphaël Constant. Est-ce qu'on parle là de stress ou simplement, docteur Marie-Claude Gavard, l'effervescence un petit peu normale liée à la rentrée scolaire?
Oui, mais souvent, on appelle cette effervescence du stress parce qu'il y a quand même peur de ne pas tout assumer. Par exemple, au niveau des fournitures scolaires, qu'il reste quelque chose à acheter ou des choses comme ça. Au niveau des étudiants qui ont un examen de fin d'année, effectivement, ils sont déjà dans cette anticipation anxieuse de l'échec éventuel. Hein.
Mais on peut dire aussi que il y a stress et stress. Dans certains cas, ça peut être même carrément positif pour se mobiliser, pour se recentrer.
Le plus souvent, le stress a un côté très positif. C'est un bénéfice secondaire qui est d'investir toute l'énergie nécessaire, toutes les réflexions nécessaires pour arriver à son but.
Et qui permet justement de faire face à certains changements qui pourraient bloquer. Ça permet de dépasser ces blocages.
Oui, c'est-à-dire que c'est un moteur, ça peut être un moteur. Un étudiant, par exemple, qui n'a rien fait pendant l'année et qui est stressé juste avant un examen, c'est une excellente chose parce qu'à ce moment-là, il se met à travailler de façon très concentrée, il mémorise de façon urgente et il a une chance d'avoir ses examens. Sans stress, il risquerait de ne rien faire.
C'est le sens même du défi, en quelque sorte.
Oui, c'est un défi inconscient. En fait, c'est une mobilisation de l'esprit pour arriver à un résultat.
Alors, docteur Marie-Claude Gavard, il y a d'autres personnes qui ont un autre sentiment à la rentrée, pas forcément du stress, mais une sorte de sentiment d'écrasement, à l'inverse, pas face à l'inconnu, mais peut-être face à ce retour de la routine, de ce qui est trop connu. Est-ce qu'on peut dire que là aussi, c'est une forme de stress ?
Oui, c'est une forme de stress. À ce moment-là, on peut penser que l'inconscient a envie que la personne se pose la question des choix de vie, de son rythme. Qu'est-ce qu'elle s'offre dans la vie ? Quelles sont ses frustrations ? Est-ce qu'elle a suffisamment de plaisir ? Est-ce qu'elle n'investit pas trop, par exemple, le travail ? Et donc, c'est un cadeau de notre inconscient pour faire un point positif.
Et justement, comment, pour ces personnes qui ont l'impression de renoncer à leur liberté, à leur libre arbitre, comment justement se mobiliser pour en finir avec finalement, c'est une forme d'angoisse de faire toujours, d'avoir une vie totalement répétitive et finalement inintéressante.
Oui, mais à ce moment-là, on peut se poser la question du pourquoi rester dans cette répétition et au niveau du temps plus ou moins libre, que fait cette personne ? Elle pourrait envisager des activités différentes, voir des amis, enfin s'occuper d'elle. Souvent, la routine n'est pas une chose obligatoire à plein temps.
Alors, on va maintenant donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
RFI.
Ce premier auditeur nous appelle du Sénégal, de Dakar. Bonjour Karim.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Et bonjour Marie-Claude. Vous
allez bien ? Bonjour.
On vous écoute Karim.
Alors moi je suis un jeune manager, je suis le manager général de ma groupe qui est un centre de formation et de renforcement des capacités basé à Dakar. Donc le stress, je veux dire que c'est la chose la bien partagée au monde parce que tout le monde est stressé, même à des degrés différents. Maintenant, moi, je suis animé par le stress positif des fois, qui me pousse à l'action. Je suis du genre à vouloir tout faire à la perfection. Mais en même temps, des fois, je tombe dans le stress négatif. Alors, qui me bloque parce que je valse entre la gestion administrative, les étudiants et aussi le personnel. Et des fois, ça me cause des maux de tête. Voilà. Donc, dans la semaine, au moins, j'aurai un jour où j'aurai des maux de tête. Donc, je voudrais poser la question.
Oui.
Est-ce qu'il y a des solutions? Bon, bien vrai que je fais des efforts pour la gestion du temps, la gestion des priorités, etc. Parce qu'en même temps, je suis formateur en marketing. Mais j'ai toujours le problème de ce stress-là qui me fatigue des fois. Donc, la question que je voudrais poser, c'est comment faire pour gérer le tout et en ne pas être trop stressé?
Docteur Marie-Claude Gavard, qu'est-ce que vous pouvez dire à Karim?
Alors, Karim, déjà, si vous visez la perfection, vous êtes à peu près sûr d'être déçu. Donc, il faudrait peut-être vous mettre un petit peu moins de pression et penser vraisemblablement à déléguer une partie de votre travail. Parce que là, vous dites que vous avez mal à la tête, c'est quand même un signal, bon, qui est léger, qui n'est pas grave, mais c'est un signal de votre corps qui dit que c'est trop. Si vous n'y faites pas attention, vous aurez mal à la tête deux fois par semaine, ensuite trois fois par semaine. C'est-à-dire, là, vous avez un signal d'alerte où vous avez intérêt à lever un petit peu le pied, même si vous avez un travail très prenant. Donc, pensez à vous détendre, peut-être faire du sport, vous consacrer peut-être plus agréablement et plus longtemps à votre famille, mais attention à vous.
Est-ce que vous avez l'impression, Karim, de justement consacrer suffisamment de temps à tout ce qui appartient en fait au monde extérieur à votre travail ?
Et c'est ça le grand problème, parce que je suis trop obnubilé, si je peux me permettre, par le travail. Même des fois le week-end, le samedi et le dimanche, des fois je suis obligé d'aller au bureau parce que hormis les étudiants qui font les cours du jour, il y a certains qui font les cours du week-end. Ce sont des professionnels, donc ils n'ont que le week-end pour renforcer leurs capacités. Donc des fois je suis obligé d'aller au bureau, mais c'est là le grand problème des fois. Vous n'avez pas de temps à consacrer des fois à la famille et ça pose un énorme problème. Voilà.
Est-ce que vous disiez le docteur Gavard, à savoir par exemple des activités physiques anti-stress, vous avez l'occasion d'en faire?
Oui, des fois j'effectue la méditation, des fois je fais la méditation et aussi des fois avec des prières et autres, mais pas bon, et sur la promenade, hein, donc je l'effectue pour gérer le stress, mais jusque-là, des fois, je sens qu'il y a trop de choses à faire.
Docteur Gavard.
Oui, lorsque Karim, vous dites que vous travaillez à la limite presque 7 jours sur 7, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'aberrant, vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça, c'est trop. Il est important de s'imaginer à 95 ans et voir ce que l'on a mis dans sa vie pour être plutôt content de soi. C'est-à-dire que si vous y mettez essentiellement le travail, vous allez être déçu parce que vos relations familiales risquent d'être un petit peu restreintes, la relation à vos enfants aussi. Attention à gérer vos priorités et ne pas trop vous surcharger parce que physiquement, vous risquez de ne pas tenir.
Voilà pour ces conseils, Karim. Hein. Prenez du temps pour vous. Hein. C'est vraiment le fond de ce qui vient d'être dit. Pensez à votre famille, à prendre du temps aussi pour votre bien-être physique, pour votre corps tout simplement. Et on vous souhaite une excellente rentrée au Sénégal, à Dakar. Dakar où l'on reste hein, en compagnie de Aïssa. Bonjour Aïssa.
Bonjour.
On vous écoute. On vous écoute Aïssa. On entend que vous n'êtes pas toute seule.
Ah oui, j'ai un bébé avec moi.
Alors, on vous écoute.
Oui, alors, moi, mon stress, c'est surtout dû à la reprise, parce que je dois reprendre le boulot le jeudi. Après 9 mois, on arrête le travail. Donc, du coup, je stresse parce que, justement, il y a la rentrée qui est là dans moins de 3 semaines. Mais en même temps, je dois laisser des jumeaux de 6 mois et reprendre le boulot. Et voilà, après, on se dit, est-ce que les personnes avec qui on va laisser ses enfants sont en mesure d'en prendre soin comme la maman le ferait? Et j'avoue que c'est un énorme problème parce que voilà, on va dire que la diligence que nous on a en tant que mère, c'est pas partagé. Une personne qui n'a jamais été mère, est-ce qu'elle saurait prendre soin d'un nouveau-né, même le nouveau-né âgé de 6 mois en question, en plus forte raison de fumer.
Une rentrée particulière pour vous, hein, rentrée non seulement dans la vie professionnelle, mais séparation avec les enfants. On peut dire là, docteur Gavard, qu'il y a un double défi.
Oui, ça, c'est un défi, mais toutes les mères qui reprennent le travail après une grossesse, après la naissance d'un enfant, se posent la question de la gestion et affectivement peut-être tout à fait perturbée. Donc ça, c'est logique, surtout que là, vous avez des jumeaux, donc c'est multiplié par deux.
Et vous avez d'autres enfants, Issa, à part ces deux jumeaux?
Oui, j'ai deux grandes filles, une qui aura bientôt 7 ans et une autre qui aura 3 ans, qui doit faire leur entrée aussi en début octobre. Et voilà, enfin, encore pour la grande, ça va, parce qu'elle reste dans la même école, mais pour la, celle qui a 3 ans, elle doit changer d'école, donc voir de nouvelles têtes, se faire de nouvelles amies, de nouveaux amis. Et c'est pas évident pour elle, je suppose. Je me mets à sa place, en fait. Déjà, parce que j'aurais cette impression de les abandonner en parlant des jumeaux, parce que je me dis qu'après, on va passer quand même 9 mois avec eux. C'est pas évident, mais pour celle qui a 3 ans, je me dis que le fait de changer d'école, parce que là, elle parle tout le temps de ses amis avec qui elle était dans une autre école, et là, changer d'école, c'est un stress pour elle, c'est un stress pour moi. Et je me demande bien comment j'ai arrivé à surmonter tout ça.
Docteur Gavard, on sent une très forte culpabilité, en tout cas, chez Aïssa.
Et en fait, Aïssa, lorsque vous dites « c'est un stress pour ma fille », et heureusement que vous ajoutez « c'est un stress pour moi », parce que c'est parce que vous êtes stressée que la petite le sent. Si vous dites « oh, quelle chance tu as, tu vas changer d'école et tu vas avoir une maîtresse, tu vas avoir des copines, ça va être formidable », votre enfant ne sera pas stressé. Par rapport à vos jumeaux, vous savez, je crois qu'il est important pour toute personne qui reprend le travail, comme ça, toute mère, de se dire, c'est une chance aussi de mettre les enfants en contact avec d'autres personnes, parce que c'est la vie et il y a d'autres rapports. Effectivement, la nounou va pas les aimer comme vous les aimez, mais ce sera différent. Et ça enrichit la vie de l'enfant. Ce serait embêtant d'imaginer des enfants qui restent seulement avec leur mère ou seulement avec leur père. Là, vous leur offrez la vie.
Voilà, Aïssa, pour ses conseils. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et une très bonne rentrée. On va partir maintenant pour Libreville, donc au Gabon, où l'on retrouve Reza Pierre. Bonjour Reza Pierre.
Bonjour Caroline, bonjour Marie-Claude.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, en fait, moi, c'est par rapport... moi, personnellement, en fait, je ne stresse pas. Avant la rentrée scolaire, je ne stresse pas. Mais j'ai beaucoup d'amis, plein d'amis qui stressent, en fait, parce qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur d'être face à eux-mêmes, en fait. Ils se posent beaucoup de questions, ils se demandent comment je veux faire, si c'est là, est-ce que j'ai le niveau de la classe, etc., etc. Et puis, il y a certains aussi, à cause des rapports sociaux très difficiles, ils entretiennent avec les autres, en fait.
Et vous êtes étudiant à quel niveau, Reza Pierre?
Je suis en terminale, je suis au lycée.
Et justement, en terminale, à la fin de l'année, il y a le bac. Est-ce que c'est quelque chose qui d'ores et déjà vous inquiète?
Bon, ça n'inquiète pas, mais c'est un objectif à atteindre, en fait. Je vois cela plus comme un objectif qu'une crainte, en fait.
Vous, plutôt, vous êtes plutôt animé par une sorte d'excitation de la rentrée, par quelque chose de positif?
Oui, oui.
Docteur Gavard, c'est ce stress positif dont on parlait tout à l'heure. On peut parler d'une sorte de carburant, en fait.
Oui, et apparemment, Reza Pierre n'a même pas besoin de ça, parce que il semble, Reza Pierre, que vous ayez suffisamment confiance en vous pour ne pas fantasmer un échec et que vous savez ce qu'il faut faire pour réussir. Et ce n'est pas surprenant que vous trouviez différent des autres amis qui ne doivent pas du tout avoir prévu tout ce qu'il y avait à faire et s'être préparé comme vous l'avez fait.
Oui. Voilà, bah on vous souhaite une bonne rentrée. Vous avez l'air bien parti pour ça, en tout cas, Reza Pierre. Très bonne journée à vous à Libreville, au Gabon. On va partir pour la République démocratique du Congo, Kinshasa, où l'on retrouve Daniel. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
On vous écoute, Daniel.
Ouais, moi, je suis stressé avant la rentrée académique parce que je sais que non, l'année que j'ai vécue a été tellement si peu pénible à tel point que je ne sais pas cette année comment ça serait. La raison pour laquelle je suis un peu stressé, c'est que les problèmes que j'ai eu à rencontrer durant l'année passée, problème d'argent, problème de travaux de professeurs, acheter les facilités, tout qu'on soit là, vraiment, c'est ce qui me stresse beaucoup le plus.
On l'entend d'ailleurs quand vous parlez très vite, Daniel, il faudrait parler un petit peu plus doucement pour que les auditeurs puissent bien comprendre ce que vous dites. Vous êtes étudiant dans quel domaine, Daniel ?
Je suis étudiant à la faculté de la médecine.
Beaucoup de travail, donc ?
Oui, beaucoup de travail, les travaux intenses. Ce qui nous stresse le plus, vraiment, c'est ça.
Justement, docteur Marie-Claude Gavard, comment dissocier ce qu'on appellerait un stress de départ d'un véritable surmenage ? Comment est-ce que l'on sent qu'on a un trop-plein de travail, là encore peut-être du côté des signes physiques ?
Oui, au niveau des signes physiques, effectivement, il peut y avoir une grande fatigue, une grande irritabilité, des troubles du sommeil, et on sent qu'on ne peut plus, que c'est trop. Et il peut y avoir même une dépression qui s'amorce. Au niveau professionnel, on parle aussi de burn-out. Mais effectivement, les études de médecine peuvent être extrêmement complexes, d'autant qu'il y a des gardes de nuit. Donc, il y a un déséquilibre du sommeil qui est vraiment très ennuyeux. De plus, les étudiants n'ont pas plus le temps ni de se relaxer, méditation, sport, etc. Et donc, il faut être très alerté pour qu'ils ne craquent pas et ne souffrent pas d'une dépression, en fait.
Voilà, donc tant que faire se peut, Daniel, essayez de vous ménager tout en réussissant ces études de médecine. C'est ce qu'on vous souhaite à Kinshasa. Est-ce que vous aviez éventuellement une autre question ?
Oui, j'ai une question. Je voulais tout simplement se demander comment faire pour ne pas s'embarrasser de ce stress-là.
Des recettes, des conseils, docteur Gavard ?
Prendre du temps pour vous. Pensez-y, prenez du temps pour vous, une alimentation correcte, surtout faites du sport.
Du sport, hein, l'activité physique pour essayer de passer à autre chose et puis de se faire du bien tout simplement. Voilà, bah, très bonne journée à vous à Kinshasa, docteur Gavard. On voit donc qu'il y a des facteurs assez différents, hein, qui peuvent favoriser ce stress. En tout cas, il y a véritablement une question de rythme quand on aborde cette période de la rentrée.
Ah, c'est certain. D'autant que les vacances sont plutôt synonymes de liberté et de bonheur. Donc, évidemment, lorsque le travail reprend, l'inconscient a tendance à dire, bon, si ce n'est plus la liberté et le bonheur, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être les contraintes, la frustration, un rythme difficile, un rythme soutenu, et il faut arriver à gérer toute la vie hors travail, en plus du travail.
Docteur Marie-Claude Gavard, on va se retrouver dans quelques instants, juste après une petite pause musicale avec La Femme.
Enfant que tu as été.
septembre, la femme sur RFI, on se retrouve pour cette émission de Priorité Santé consacrée au stress de la rentrée. Toujours en studio avec nous, docteur Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris. Alors justement, on a parlé tout à l'heure des relations parents-enfants, docteur Gavard. Le passé, ses souvenirs, est-ce que ça peut justement intensifier l'émotion, des réactions d'angoisse quand on a connu des rentrées particulièrement calamiteuse.
Ah mais oui, parce que on explique à l'enfant que l'école c'est bien, etc., mais avec un trémolo dans la voix et des angoisses, et l'enfant ressent complètement. Moi, il y a un petit truc que je trouve important, c'est lorsque l'enfant se lève le matin, les parents disent en avant pour de nouvelles aventures. Là déjà, ça met l'enfant de bonne humeur.
Et pas dépêche-toi, on va être en retard.
Mais ça c'est affreux. Oui, il faut lever les enfants suffisamment tôt, c'est-à-dire les coucher la veille suffisamment tôt pour qu'ils se réveillent en principe spontanément le matin, et qu'ils aient le temps de prendre un petit déjeuner que les parents devraient prendre avec eux pour que ce soit un moment doux le matin.
Un début de journée et pas un début de rythme
pas
infernal.
Pas la course.
Alors justement, des conseils qu'on peut donner, on a entendu tout à l'heure ce qu'on disait avec les auditeurs lors de l'échange, docteur Gavard, petit remède pour lutter contre ce stress de la rentrée, ce qu'on a bien retenu, c'est surtout garder du temps pour soi.
Ah oui, parce que regardez comme tout le monde va bien a priori en vacances. C'est parce que précisément, on écoute son envie, on écoute son corps, on écoute son rythme et on essaie de faire ce qu'on aime.
Même si parfois au début on a un petit peu de mal à lâcher, les premiers jours peuvent être un peu difficiles justement pour se défaire de ce rythme et de ce surmenage.
Oui, mais justement parce que c'est trop. Et lâcher son travail, c'est aussi se dire inconsciemment, mais je suis indispensable et donc comment cela va-t-il se passer en mon absence? Donc il y a aussi une anticipation du retour avec, est-ce que je vais avoir beaucoup de mails à gérer? Est-ce que je vais avoir encore plus de travail? Et c'est le cas le plus souvent. Mais donc, arriver à lâcher pour profiter de ses vacances, de ses week-ends et de ses soirées aussi, c'est vraiment se donner du temps pour soi, avoir des activités agréables, voir des amis, sortir, penser à soi, c'est absolument fondamental.
Et penser aussi à son corps, hein, ce que vous disiez à l'heure à notre étudiant surmené, à ce jeune aussi directeur de centre de formation visiblement surmené, non seulement pour entretenir son corps, mais aussi pour passer à autre chose physiquement.
Oui, et puis c'est une soupape de sécurité, c'est du plaisir. On sécrète des endorphines qui sont les hormones du plaisir lorsqu'on fait du sport, et il faut se détendre pour se sentir bien, pour avoir une bonne communication avec les autres, pour être plutôt équilibré.
Avec plutôt des sports du côté sport intensif, relaxation, ou ça dépend de chacun, de chacune?
Ça dépend de chacun, le plaisir. Il faut vraiment cette recherche de plaisir.
Alors, autre éclairage à présent. Pour cela, on va tout de suite partir pour le Cameroun. Pour retrouver le docteur Félicien Ntonet. Bonjour docteur Ntonet.
Bonjour en studio à RFI, bonjour, le Cameroun vous salue.
Merci beaucoup, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, directeur général adjoint du CHU de Yaoundé. Est-ce que le stress de la rentrée, hein, ce dont on parle depuis le début de cette émission, c'est un problème que vous évoquez avec certains de vos patients en consultation?
Oui, c'est un phénomène croissant dans mon pays. Il a été méconnu pendant longtemps, donc il a eu une installation insidieuse. On ne le désignait pas comme tel, mais aujourd'hui, les Camerounais se rendent compte de la réalité du stress. Et pour le cas spécifique de la rentrée scolaire, il y a des souffrances qui étaient induites par cette période qui sont aujourd'hui imputables au stress de la rentrée.
Avec quelle manifestation, docteur Ntonet?
Alors, il faut dire que régulièrement, à l'approche de la rentrée, j'ai eu à consulter les parents et même parfois leurs enfants pour soit des troubles d'agitation ou bien d'hyperactivité de l'enfant, mais surtout des inquiétudes des parents qu'ils reliaient aux difficultés économiques, à la difficulté à la préparation de la rentrée scolaire. Avec cela, des troubles du sommeil, une certaine fatigue et surtout l'appréhension du lendemain, l'incertitude. Donc une forme d'anxiété latente, comme disait le docteur tout à l'heure, qui parfois se manifestait avec des signes de dépression.
Avec un profil particulier des personnes concernées, un certain âge ou un certain milieu social ?
Généralement, des adultes jeunes, parents jeunes. Le modèle familial est de plus en plus varié. Avant, on avait des familles structurées à l'africaine. Aujourd'hui, on a des familles monoparentales ou alors en dislocation. On a de plus en plus un individualisme qui réduit le soutien que la communauté apportait, dont les gens sont confrontés à la réalité, à ces changements, la rentrée scolaire étant perçue comme un temps de crise au cours duquel il faut avoir des moyens financiers pour faire face à la scolarité, à la préparation des fournitures. L'enfant ne s'adaptant pas toujours à la nouvelle classe, à la prochaine maîtresse ou au prochain maître, à la nouvelle école. Et pour certains, lorsqu'ils doivent quitter la maison pour l'internat, autant de situations, lorsque nous écoutons nos patients, nous constatons que ça leur pose des problèmes. La rentrée en elle-même étant un moment de résolution de problèmes diverses. Et aujourd'hui, au Cameroun, comme je l'ai dit, si on a amélioré le stress, la gestion du stress en harmonisant la liste des livres scolaires, parce que quelques années avant, c'était des listes diversifiées. Mmh. Aujourd'hui, les parents pourront être soutenus parce qu'il y a une liste réduite, donc moins coûteuse, mais il reste ce phénomène d'incertitude. Tant il est vrai, la rentrée scolaire au Cameroun se déroule dans un environnement où certaines parties de notre pays sont en crise sociale et sécuritaire, et les parents ne savent toujours pas comment se passera cette rentrée. Vous voyez donc qu'il y a des aspects environnementaux qui sont liés à la crise sociale, il y a des facteurs économiques qui font que les parents ne s'ajustent pas à la charge. Mais il y a aussi le problème de l'adaptation à la nouvelle situation, à la crise que constitue la rentrée scolaire.
Et par exemple, docteur Félicienne Tonnet, si vous avez des parents qui viennent, qui parlent de ce stress, quels conseils très concrets est-ce que vous allez leur donner ?
Alors, généralement, on s'est rendu compte que c'était une souffrance insidieuse sans qu'ils puissent savoir à quoi elle était liée. Mais lorsqu'on essayait de développer, les aider à écouter, à comprendre les mécanismes sur lesquels ils étaient installés dans la résolution des problèmes, on a l'impression qu'on leur donnait des capacités psychologiques à faire face à cette situation. Il faut dire que certains Camerounais se sont rendus compte que leur seuil de tolérance au stress n'était pas le même que celui de la voisine ou bien du voisin. Donc, nous avons cette approche psychologique et psychothérapeutique pour les accompagner. Mais moi, comme nous ne sommes pas nombreux, je suis parfois obligé d'avoir recours à des médicaments pour lever l'anxiété et parfois résoudre la dépression qui veut s'installer. Tant il est vrai, lorsqu'elle devient incapacitante, on sent qu'elle ne risque pas de faire face à cette rentrée scolaire inévitable.
Pour justement un petit peu dépasser tous ces symptômes qui peuvent même avoir des retentissements physiques, docteur Antoné.
Bien sûr, le Camerounais en particulier, mais l'Africain en général, somatise beaucoup. Les manifestations somatiques liées au stress au Cameroun, le motif de consultation, bien évidemment, compte tenu de la langue, ne sera pas « j'ai un stress », mais ce sera « j'ai mal au ventre »,« j'ai mal à la tête »,« j'ai des cheveux qui tombent »,« j'ai perdu mes règles »,« je n'ai pas mes menstruations » ou alors « j'ai une dysfonction érectile ». Autant de troubles variés, c'est pour cela que je dis que de plus en plus, le stress est devenu un problème de santé publique au Cameroun. Et lorsqu'on approche la rentrée scolaire, certains adultes, parents, ont des manifestations physiques, somatiques, qu'ils croient liées aux organes internes, alors qu'il s'agit des problèmes psychologiques à retentissement somatique.
C'est leur corps qui parle, alors qu'est-ce que vous leur dites ? Parlez entre vous, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas simple non plus d'aller consulter un psychiatre, un psychologue chez vous au Cameroun. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes que vous rencontrez ? Et quel message, bien sûr, vous voulez faire passer aux auditeurs de Priorité Santé ?
Oui, alors généralement, nous ne psychiatrisons pas. Mais il faut dire que l'un des modèles, mais on l'a dit dans l'émission tout à l'heure, nous avons des loisirs. Nous encourageons cela. Nous avons quand même des parents qui sont des obsessionnels marqués, et ceux-là, on ne va pas les aborder comme une personne qui est en difficulté économique. Nous ouvrons avec des conseils l'éducation à la relaxation, au sport, surtout la musique, parce que moi je parle beaucoup de musique à mes patients, et je pense que c'est un aspect qui ne devrait pas être négligé dans la gestion du stress.
Sport, musique et se parler. Merci beaucoup, hein, docteur Félicien Tonnet, de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, directeur adjoint du CHU de Yaoundé au Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
On vous retrouve, docteur Marie-Claude Gavard, hein, on a entendu sport, musique, et puis bien sûr ce stress qui change en fonction de l'époque et aussi de la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est plus stressé en ville qu'à la campagne, ou c'est encore un cliché?
Non, c'est vraisemblable. Hein, parce que, vous savez, la cohue le matin, les transports, les gens qui sont compressés. Je pense qu'il y a une grande différence entre la ville et la campagne. Et je crois que lorsque des personnes se sentent mal, si un médecin peut expliquer ce que c'est que le stress, déjà mettre des mots permet d'être rassuré et peut-être d'avoir moins de symptômes physique. Quand on comprend ce qui se passe et qu'on donne quelques outils, par exemple, notamment, tout à l'heure je n'ai pas parlé de musique, mais la musique c'est très important. Lorsque les gens se sentent relaxés en écoutant de la musique, c'est vraiment quelque chose à faire de façon fréquente. D'ailleurs, on voit tous les gens qui se baladent maintenant avec des écouteurs et qui écoutent leur musique préférée.
Pourquoi pas aussi les bienfaits d'un massage?
Ah mais complètement, oui, si c'est possible, c'est vraiment un plaisir.
Est-ce que vous pensez, malgré tout, après tout ce qu'on vient de dire un petit peu sur les mauvais côtés de ce stress, qu'il y a du bon dans le stress de la rentrée, ce sera le mot de la fin.
Alors, il y a du bon si on sait que c'est un moteur et qu'il ne faut pas le dramatiser, mais que ça permet juste de se concentrer sur le moment et d'être efficace. Mais dès que ça dépasse ça, c'est intéressant de prendre du recul pour voir comment on peut améliorer les choses, notamment diminuer la quantité de frustration.
Parce qu'on l'a bien compris, là, pas question de dramatiser, de dire que c'est une tragédie ou même une maladie, mais bien de mettre des mots pour que tout ça ne se transforme pas en maladie au long cours.
Oui, c'est ça, c'est prendre le recul pour prendre les bonnes mesures, utiliser des outils simples pour sortir de ce stress, pour le dépasser.
Parce qu'on le voit, des enfants peuvent carrément refuser de retourner à l'école si ce stress s'installe, alors qu'en en parlant, eh bien, on peut dépasser tout ça.
Oui, et lorsque les parents arrivent à se déstresser eux-mêmes.
Et arrêter de transmettre tout ça de génération en génération. Merci beaucoup à vous, docteur Marie-Claude Gavard, hein, pour cet éclairage, ces conseils sur le stress de la rentrée. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris. Le titre de cet ouvrage publié aux éditions Marabout, « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» On parle tout de suite santé et alimentation avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. On va parler cette semaine d'un sujet qui est de plus en plus à la mode, on en entend parler de plus en plus souvent, il s'agit du microbiote intestinal. Et pour commencer, description, petite définition de ce microbiote.
Alors le microbiote, la définition scientifique, on va dire, c'est un peu tous les micro-organismes qui vont être dans le tube digestif. Ça va être les levures, ça va être les bactéries, ça va être les virus, et puis ça va être aussi les champignons. On a longtemps appelé ça la flore intestinale. Aujourd'hui, on appelle ça le microbiote intestinal. Le nom a un petit peu changé. Et il est composé de plus de 1000 milliards de micro-organismes. Alors, pour donner une image, ça veut dire qu'on a à peu près 1 kg de micro-organismes sur les 32 mètres carrés d'intestin. Donc, c'est une vraie colonisation qui est très très importante, et aujourd'hui il y a une très grande diversité de ce microbiote et de ces micro-organismes, puisque les chercheurs pensent qu'il y a à peu près 400 espèces différentes qui colonisent le tube digestif, et c'est effectivement un sujet de recherche de plus en plus poussé pour savoir un peu qui est présent ou pas présent comme micro-organisme, quel est le rôle et quelle est la fonction santé.
Alors, on a de plus en plus de connaissances à ce sujet. C'est quoi ces grands rôles du microbiote pour l'organisme?
Alors, le premier qui est le plus connu, c'est la digestion, puisque ces micro-organismes sont à peu près les seules cellules capables de digérer les fibres que l'on ingère. Et ça va permettre, avec cette digestion, de produire à la fois des acides gras volatiles, mais aussi des vitamines très importantes, comme la vitamine K, la vitamine B9 et la vitamine B12, mais aussi des acides aminés essentiels, comme la tyrosine, et enfin d'autres substances bénéfiques pour la santé. La deuxième chose, c'est au niveau immunitaire. Ça va dynamiser le système immunitaire, mais ça va aussi permettre que les bactéries, j'allais dire, ou les virus qui sont pathogènes ne s'installent moins dans l'organisme. Et enfin, le dernier, c'est un rôle physiologique, puisque ça va permettre de participer à tous les mécanismes de régulation de la fonction intestinale.
Alors, comment est-ce que ce microbiote évolue au cours de la vie pour les individus?
Alors, il évolue déjà très très tôt, hein, puisque il y a une mutation, on va dire, progressive de 0 à 3 ans, où il va y avoir vraiment le développement de ce microbiote et de la fonction. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer. Le premier, déjà, c'est le mode de naissance, de savoir si on est né par césarienne ou par voie basse. Le deuxième, c'est le mode, j'allais dire, d'alimentation, si c'est un allaitement maternel ou si c'est une alimentation élevage. Et le troisième, bien sûr, c'est quand on va commencer à apporter des aliments extérieurs, ça va être la phase de diversification. Et il faut le rappeler, parce que c'est souvent quelque chose à rappeler, quand on parle du bénéfice de l'allaitement maternel, c'est aussi un bénéfice pour la diversité du microbiote et cette composition. Et ensuite, chez l'adulte, ce microbiote va se stabiliser. Si on a une alimentation un peu correcte et diversifiée, il va rester assez stable. Maintenant, ce qui est de plus en plus connu, par contre, c'est quand, si jamais il y a une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, ce microbiote va changer progressivement de manière plutôt négative par rapport à ce qu'il aurait pu être.
Avec justement des interrogations sur ce lien entre microbiote et santé, est-ce que c'est démontré ce lien? Et justement, on en parle pour quelle maladie précisément?
Alors aujourd'hui, on en parle pour beaucoup de choses. Des choses sont démontrées, d'autres moins. Je choisirais de retenir deux choses où là, la démonstration est assez spectaculaire. Le premier, c'est l'obésité. Le deuxième, c'est le diabète. Alors sur l'obésité, on sait qu'aujourd'hui, si on prend des microbiotes de souris obèses et qu'on passe ce microbiote sur des souris minces, on va dire maigres, eh ben la souris développe une obésité. Donc les mécanismes sont pas encore totalement connus, mais il est très clair que du coup, chez une personne obèse, il y a un microbiote qui s'installe, qui va favoriser cette obésité. Et dans le diabète, on sait aujourd'hui que ces micro organismes vont jouer dans la résistance à l'insuline qui va en fait augmenter l'hyperglycémie et la tenue du diabète. Et donc dans les deux cas, ce qu'on se rend compte aussi, notamment dans les modèles animaux qui sont en train d'être travaillés aujourd'hui aussi pour passer à l'homme, c'est qu'un changement de microbiote petit à petit, on va dire, avec un changement d'alimentation, un changement d'activité physique, va permettre de travailler sur ces maladies et d'améliorer la situation des patients.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. On se retrouve très bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Ophélie Lassène, Victor Hull, aujourd'hui Olivier Roux. Demain, nous parlerons des infections nosocomiales. Comment lutter contre ces maladies contractées dans les établissements de santé, à l'hôpital ou au dispensaire? Quels sont les risques? Quelle prévention? Si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de téléphone de l'émission 33 84 22 75 75. N'hésitez pas à nous appeler et on se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.